bonsoir et bienvenue dans cette émission, la journée internationale des droits des femmes, commémorée le 8 mars 2026 et célébrée en RDC sous le thème « Droits garantis, autonomisation durable des femmes et des filles ». Et sur le plan international, le thème est énoncé ainsi « Droits, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, souligne que dans de nombreux pays, la loi continue de limiter profondément les droits fondamentaux des femmes, impossibilité de posséder des biens ou d'hériter au même titre que les hommes, interdiction de travailler ou de voyager sans l'autorisation du conjoint, restriction dans les droits des divorcés, absence de reconnaissance du viol conjugal encore non criminalisé dans plus de 40 États, obstacle à l'accès à l'éducation, impossibilité pour certaines femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Même dans les pays où des protections existent, les femmes peinent à accéder à la justice en raison des discriminations persistantes ou d'une faible application des lois. À ce jour, quelle évaluation peut-on faire de la lutte pour la promotion des droits des femmes en RDC? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Madame Annie Modi, elle est activiste des droits des femmes. Bonsoir Madame Annie Modi.
Bonsoir Monsieur Guimaté et bonsoir aux auditeurs.
Toujours ici au studio, Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, elle est analyste indépendante, elle est autrice et cofondatrice de Ouema Asbel, une ONG basée au Nord Kivu. Bonsoir Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma.
Bonsoir Monsieur Guimaté, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Et elle en ligne, Madame Faïda Mwangilwa, elle est membre de la société civile, ministre honoraire des genres, elle est experte en genre. Bonsoir Madame Faïda Mwangilwa. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Dans de nombreux villages du Nord Kivu, des femmes qui ont mis des années à bâtir des projets voient leurs efforts anéantis en l'espace de quelques heures. Le scénario est souvent le même. Des hommes armés surgissent dans les villages, incendient des maisons, pillent les bétails et sèment la mort. Ceux qui parviennent à s'échapper tentent de reconstruire leur vie dès qu'une accalmie ses profils. Mais l'espoir est souvent de courte durée, car l'insécurité finit toujours par les rattraper. Pour Emmanuela Vasikia de l'organisation Action des volontaires pour la solidarité et le développement, ces cycles de violence qui durent depuis des décennies épuisent.
Tous les jours, avec des déplacements massifs, ça ne nous permet pas d'avoir des femmes qui ont l'ancrage, parce que nous sommes un peu découragés, parce qu'au fil du temps, quand nous travaillons sur les capacités de femmes, mais après un mois, on va voir les femmes sont déplacées, ou soit les femmes, quand on les travaille avec dans le cadre de leur autonomisation, ça nous décourage beaucoup, parce que tous les jours, il y a des crises, on a besoin de la paix.
En ce 8 mars, les femmes leaders du Nord Kivu rappellent que sans une vraie paix, le développement et l'autonomisation des femmes resteront des vains mots dans une province où tout est sans cesse à refaire. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Merci à vous, Rosalie Zawadi. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNDH, tire la sonnette d'alarme sur les violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo. Au-delà des chiffres alarmants collectés en 2025, le BCNDH alerte dans un communiqué sur l'utilisation systématique du viol comme arme de guerre et l'émergence d'une génération d'enfants victimes de la stigmatisation. Le BCNDH martèle que la lutte contre l'impunité ne peut plus attendre et appelle instamment les autorités nationales à accélérer les poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes graves et à garantir l'enregistrement systématique à l'état civil de tous les enfants nés du viol pour briser le cycle de l'exclusion. Les BCNDH appellent les groupes armés à cesser immédiatement les hostilités, à libérer sans condition toutes les femmes et filles maintenues en captivité et à mettre fin à l'esclavage sexuel. Plus de détails avec Alain Irunga.
En 2025, le BCNUDH a documenté 887 cas de violences sexuelles ayant affecté 1534 victimes, dont une majorité écrasante de femmes, 854, et de filles, 672. L'est du pays demeure l'épicentre de cette tragédie, le Nord Kivu et le Sud Kivu concentrant à eux seuls près de 80% des victimes documentées. Les groupes armés sont responsables de 75% des victimes, avec le mouvement du 23 mars, M23 en tête, suivi des groupes Wazalendo, de la coopérative de développement du Congo Codeco, divers groupes Mai Mai, des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et des forces démocratiques alliées ADF. Le BCNUDH note également avec préoccupation que les acteurs étatiques, FARDC, Police nationale congolaise et Agence nationale de renseignement, sont impliqués dans 19% des cas documentés. Le rapport met en lumière des crimes atroces, dont l'esclavage sexuel. Des femmes et filles sont maintenues en captivité prolongée, soumises à des viols répétés et des grossesses forcées. Les enfants nés de la violence sous contrainte font face à un régime familial, une absence d'état civil et un risque permanent de recrutement par les groupes armés.
Merci Alain Irung. Madame Faïda Mangulois, vous êtes membre de la société civile, vous êtes ministre honoraire, n'est-ce pas, du genre, et vous êtes aussi experte en genre. Et nous venons de suivre ces deux reportages, n'est-ce pas, qui font état de quelques difficultés hein, auxquelles la femme congolaise fait face pour la jouissance, n'est-ce pas, de ses droits. Et à ces jours, quelle évaluation vous pouvez faire de la lutte pour la promotion des droits des femmes en RDC?
Merci beaucoup. Monsieur Guy, on ne peut pas parler de quelques difficultés. On doit parler des graves difficultés, d'une situation très alarmante, une situation triste que traversent les femmes congolaises, particulièrement les victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Très souvent, les gens disent, mais pourquoi vous insistez beaucoup plus sur les violences sexuelles? Oui, vous pouvez perdre les biens. Ça, c'est quelque chose de l'extérieur. Vous pouvez perdre les habits, vous pouvez perdre la maison. Mais lorsque ton intégrité physique est touchée, ça devient un problème très difficile à soigner. Et donc, nous sommes, en tout cas, très tristes lorsqu'on suit tout ce tableau sombre. C'est une tristesse. Alors, quelle évolution? On parle d'évolution, c'est à partir de quand et quand. Mais moi, quand je vois les dernières années, en tout cas, les femmes congolaises ont travaillé, et il n'y a pas que des femmes. Il y a aussi des organisations dirigées par des hommes qui travaillent dans la promotion et la défense des droits des femmes. Donc, au moins, c'est une appropriation de la lutte. Les femmes ne sont plus seules à défendre leurs droits. Elles sont encouragées par d'autres hommes au sein de la communauté. Et de deux, ce n'est plus aussi une question isolée, ça devient des questions publiques, parce qu'il existe au niveau des textes de loi des avancées. Je prends par exemple le cas par rapport à l'autorisation maritale avant pour travailler, il fallait avoir l'autorisation de votre conjoint. Pour voyager, il fallait avoir l'autorisation de votre conjoint. Mais bien sûr, toute cette réalité-là, par rapport à la loi, oui, il y a avancé, mais dans l'exécution, non, il y a encore beaucoup de jeunes femmes qui terminent les études une fois mariées et restent chez elles à la maison. Donc, dans ces cas-là, personne ne peut en parler. Il y a des femmes, lorsque elles perdent leur mari, elles perdent le bien aussi, alors qu'il y a des évolutions sur le plan légal par rapport au code de la famille. Mais la mise en application pose des problèmes. Moi, je crois qu'il y a des efforts, même dans le cas de la participation politique. Nous regardons, lorsque nous observons les statistiques, il y a évolution. Vous trouvez au niveau du gouvernement plus de 30% des femmes. Vous avez des femmes au niveau des conseillères communales. Mais on s'est dit, doit-on se limiter aux chiffres? Sur le terrain, lorsque nous descendons, rencontrer les femmes de la base, elles parlent de leur vie. Elles disent, oui, sur le plan de la participation, il y a évolution. Mais par rapport à notre vie quotidienne, il y a des efforts que nous devons continuer à fournir à notre niveau comme femmes.
Justement,
voilà, il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons avancer par rapport à l'évolution, même quand je parle de la scolarisation. Vous savez, ces derniers temps, lorsque vous regardez les statistiques, il y a plus de filles à l'école primaire que des garçons. La réalité dans notre pays est qu'avant qu'on puisse rendre gratuit l'enseignement primaire, beaucoup de ménages ont été envoyés opérer des choix très compliqués pour encourager la scolarisation des garçons au détriment de celles des filles. Aujourd'hui, au moins, il y a la possibilité, ça a réduit le nombre de milliers d'enfants qui n'allaient pas à l'école. Ça fait partie des avancées.
Voilà.
Mais ça reste aussi une réalité lorsqu'il y a beaucoup de filles qui tombent, qui ont des grossesses non planifiées, qui sont envoyées en mariage, bien que l'âge de mariage est à 18 ans, mais il y a encore des filles qu'on amène en mariage à 16 ans et qu'on trompe au niveau de l'état civil. Non, ma fille a 18 ans alors qu'elle a 16 ans. Voilà, monsieur dit, il y a pas mal de défis, mais au moins, ces défis-là sont portés par la majorité maintenant de la population,
voilà,
y compris les chefs traditionnels.
Il y a beaucoup de défis, comme vous venez de le dire. Vous avez même, n'est-ce pas, évoqué le fait que, sous le plan juridique, il y a beaucoup d'avancées, mais dans la pratique, n'est-ce pas, on ne sent pas ces avancées. Prenons l'exemple, n'est-ce pas, des cas de mariage forcé ou mariage précoce. Pourquoi, en dépit du fait que cela soit criminalisé par la loi, la pratique persiste? Comment vous expliquez cela?
Je vous assure, nous allons sur terrain très régulièrement dans les villages et vous rencontrez une fille qui a à peine 18 ans, mais elle a 4 enfants. Comment tu peux avoir 19 ans si tu as 4 enfants? Donc, tu as commencé à mettre au monde bien avant. Vous pouvez même vous-même dire, ça c'est une question, un dossier à présenter devant la justice. Mais la famille ne va pas se présenter. Les gens vont vous dire, non, depuis le passé, est-ce qu'il y a eu des faits? Elle a mis au monde. Donc, les gens sont en train de banaliser ces questions-là. Bien qu'il y a des avancées sur le plan légal, ils les gens banalisent. Donc, et lorsque vous poussez plus loin, ils arrivent même à tromper. Comme vous dites, non, elle est née en telle année, elle a 23 ans. Donc, nous rencontrons ces difficultés sur le terrain. Les activistes rencontrent ces difficultés. Donc, il faut une conjugation d'efforts entre les organisations féministes et le chef traditionnel, mais aussi avec les membres, tous les membres de la communauté, parce que ces questions ne doivent pas seulement concerner les femmes, mais l'ensemble de la communauté. Et c'est comme ça qu'on construit une nation.
Voilà.
La loi, ça ne doit pas s'appliquer de façon isolée, mais c'est de manière globale et qui est un suivi à tous les niveaux.
Alors, en évoquant les différents défis, vous avez dit qu'il y a un travail à faire de la part de vous, femmes. Hein. Quel est ce travail que vous devez faire, vous, femmes, pour que ces droits, n'est-ce pas, qui sont consacrés dans les différents textes de loi puissent se concrétiser, n'est-ce pas, dans les faits?
D'abord, c'est de continuer à sensibiliser. Nos lois, là, très souvent, nous pouvons parler à la radio, nous parlons dans les télévisions, mais combien de gens suivent ça, avec tout ce qu'il y a comme difficulté? Les gens ne suivent pas. Mais lorsque vous parlez avec une personne, il y a aussi des échanges. Oui, voilà, la fille de telle, voilà qu'elle a terminé les études et aujourd'hui, elle est utile pour la communauté. Voilà telle autre. Donc, à partir de ces exemples, ça peut réussir. Mais il y a aussi des efforts à faire au niveau de la justice. La justice est installée partout. Il y a des services, des parquets partout. Lorsqu'une situation comme celle-là s'observe, en tout cas le juge peut s'en saisir de la situation, en dehors même des activistes. Donc, c'est une question qui doit être, mais aussi les parents eux-mêmes. Quel est leur rôle lorsque vous acceptez de prendre l'ado, sachant que ma fille n'a pas l'âge qu'il faut pour aller en mariage? Vous êtes aussi complice, donc la situation tourne et ça demande des efforts conjugués, comme je venais de le dire.
Merci, merci Madame Annie Maudit, vous êtes activiste des droits des femmes. Pouvez également, comment vous pouvez évaluer la lutte pour la promotion des droits des femmes en RDC à ces jours?
Je crois que notre mentor et maman vient de présenter les gros des défis, des tableaux qui est là. J'ai souvent répété ceci, la femme et la jeune fille congolaise est parmi les mieux protégés sur le plan normatif dans le monde, parce qu'aujourd'hui on peut encore trouver certains états aux États-Unis qui gardent le mariage précoce comme légal. On trouve la situation où les enfants ne peuvent pas prendre la nationalité par leur mère. On a des pays où les femmes ne peuvent pas acheter la terre, par exemple, et ça, c'est leur cadre normatif. Par contre, pour la femme et la jeune fille congolaise, comme je l'ai dit, ça, ce n'est pas une question qui se pose, même s'il y a encore quelques incohérences et contradictions parfois dans notre cadre légal, ça, il faut quand même les souligner. Je vais donner un exemple. Notre code pénal, par exemple, aujourd'hui criminalise l'utilisation de tout objet tendant à empêcher la fécondation. Alors qu'en même temps, nous avons au sein du ministère de la Santé un programme national de la santé de la reproduction qui, lui, fait la promotion de l'utilisation des préservatifs. C'est juste pour montrer cette contradiction parmi tant d'autres que nous pouvons relever. Nous avons encore une fois dans les codes pénals l'accès à l'avortement sécurisé qui est prohibé, qui est interdit sous quelque forme que ce soit, alors que même le Parlement a voté une loi autorisant la RDC à ratifier le protocole de Maputo sans réserve. Et aujourd'hui, le protocole de Maputo est publié au journal officiel, mais le code pénal, lui, il est resté intact.
Et la femme est victime de tous ces paradoxes, n'est-ce pas?
Oui, la femme est victime de ces incohérences et les contradictions. Même alors, lorsque nous parlons de l'autorisation maritale pour travailler qui serait bannie dans le code du travail. Mais quand vous revenez dans le code de la famille, il reste quand même qu'il faut aller, il faut se concerter avec son mari. Si vous ne trouvez pas d'accord, vous allez au conseil de famille, de manière pratique. Vous voyez quel conseil de famille qui donnerait raison à l'épouse. Donc, d'une certaine manière, comme je l'ai dit, nous sommes assez bien protégés sur le plan légal, mais quand même, il reste plusieurs incohérences. Donc, à un moment donné, les défis, c'est aussi d'évaluer notre cadre légal, faire la lecture genre, la cohérence de ces droits des femmes dans tous les instruments qui couvrent leurs droits aussi bien social, économique que politique, pour finalement que c'est notre affirmation de dire que nous sommes bien protégés soit effectivement efficace. Qu'à cela ne tienne, si seulement la moitié des droits garantis dans notre cadre légal étaient appliqués de manière qui se doit, nous serions les plus heureuses du continent ou même du monde. Mais là, notre plus grand défi, entre autres, pour ajouter à ce que Maman Faïda venait de dire, quand on parle de l'implémentation, c'est l'État qui est censé renforcer l'application des textes des lois. Cependant, la vulgarisation de ces textes des lois ne suit pas. Les textes sont votés pour la plupart des temps en français. Nous avons une nation qui a une population à majorité qui vivant dans les zones rurales. Dans cette population-là, la population féminine, le taux d'analphabétisme est très élevé. Les lois sur papier en français, quand est-ce que cette catégorie de la population peut accéder à ça? Ça pose un premier problème. Le deuxième problème,
c'est... Quand il faut concevoir les différents thèmes, on utilise souvent des mots savants, hein, autonomisation, leadership.
Exactement.
Vous pensez que ça passe facilement chez tout le monde?
Pas du tout. C'est pourquoi il faut la traduction et même l'interprétation qui soit accessible à la population qui doivent jouir de ces droits. Pour jouir d'un droit, il faut les revendiquer. Pour revendiquer, il faut connaître. J'allais soulever un autre défi qui est finalement l'absence de l'autorité de l'État dans beaucoup de contrées dans l'arrière-pays. Nous faisons le province, nous faisons les territoires, nous faisons des villages et des groupements. Vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres sans voir un sousiat, sans voir un bâtiment du tribunal. Ça pose un problème. Si l'État n'est pas, l'autorité de l'État ne se décentralise pas dans les faits, parce que, encore une fois, la décentralisation a été prononcée, annoncée, déclarée et tout, mais ça ne suit pas, la présence de l'État ne suit pas. Maman Faïda a souligné la question autour de la justice. L'éloignement de la justice, des justiciables, ça c'est un problème. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes en train de travailler sur l'accès à la justice et la lutte contre les violences basées sur les gens dans les territoires des Yaouma. J'espère que vous connaissez ou les auditeurs savent où ça se trouve. C'est dans la forêt équatoriale en pleine province orientale. Sauf qu'avant d'y accéder, il faut informer aux gens que vous allez à Yaouma parce qu'il n'y a pas de couverture des télécommunications. On peut vous croire disparu. Mais si vous avez des cas de violences sexuelles, nous, une ONG, nous sommes obligés de prendre les policiers, les bourreaux, la victime, les témoins et les parents pour les amener aussi loin qu'à 200 km pour trouver la première juridiction. Donc l'éloignement de la justice des justiciables, ça reste un autre problème ajouté à la pauvreté, au coût même de l'accès à la justice, entre autres. Donc les défis restent énormes, bien que nous saluions les avancées qui sont enregistrées.
Voilà, il y a Tangano qui nous écrit depuis la ville de Goma au Nord Kivu. La lutte pour les droits des femmes en RDC est autant culturelle que politique. Les lois existent, mais leur mise en œuvre dépend de la capacité à transformer les mentalités et à redéfinir les rôles sociaux. L'autonomisation durable des femmes et des filles passe donc par une éducation égalitaire dès les jeunes âges, la valorisation des filles dans la culture populaire, la relecture des traditions pour les adapter aux valeurs universelles de justice et d'égalité. Et la question qui vous est posée, quel mécanisme pourrait renforcer la participation des femmes dans les instances de décision politique et économique, Madame Annie Maudit?
Dans le premier mécanisme, c'est vraiment le respect des textes de loi. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des gouverneurs qui ont nommé des gouvernements sans aucune femme. Et personne ne s'insurge. Ni les procureurs ne se saisissent pas, ni les assemblées provinciales n'interpellent pas ces gouverneurs, alors que c'est inconstitutionnel.
Les associations de femmes ne font pas beaucoup de
bruit.
On n'a pas dénoncé, n'est-ce pas?
Les associations de femmes, c'est pas les instances judiciaires. Parce que lorsque la constitution est violentée, lorsqu'il y a eu tentative, par exemple, que l'article 220 de la constitution soit violenté, est-ce qu'il y avait que les associations qui se sont insurgées? Non. Parce que lorsqu'il y a 2-3 articles de la Constitution qui sont violentées. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui doivent se soulever? Ça, c'est juste pour dire que ça, c'est le premier élément. Les textes des lois ne sont pas respectés. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle des questions de la mentalité. Aujourd'hui, la RDC est le seul pays avec la stratégie nationale de la masculinité positive, avec une journée nationale de la masculinité positive qui est le 31 mars. Moi, je pense que c'est plus la volonté politique qui manque au-delà des lois qui existent. Pourquoi? Parce que cette volonté politique est alimentée par des valeurs socio-culturelles que les décideurs ont grandi avec. Et encore qu'il n'y a pas que les hommes, je vous garantis. Il y a aussi les femmes qu'on appelle les gatekeepers, en fait les gardiennes des valeurs, des traditions patriarcales qui fait la redistribution de pouvoir de manière égalitaire. Donc, comme je disais, je suis d'accord avec lui par rapport à la question des changements des mentalités. Nous devons plus communiquer. Mais la justice, la volonté politique, c'est ça qui manque. Nous avons beaucoup plus d'hommes aussi qui s'associent à nous afin que nous puissions pousser au respect des textes et des lois, encore une fois, au respect des droits des femmes qui sont aussi les droits humains.
Merci Chantal Faïda Moulenga Biuma, analyste indépendante. Vous êtes autrice et cofondatrice de Ouema Asbel, une ONG basée au Nord Kivu. Comment vous également vous évaluez à ce jour les combats de la femme en fait, vous évaluez les combats de la femme pour la promotion des droits de la femme. Voilà.
Merci beaucoup pour la question. J'aimerais rendre un hommage à toutes les femmes congolaises et principalement celles qui vivent dans les provinces affectées par les 3 décennies de crise que nous condamnons. Et nous demandons aux décideurs publics de prendre des mesures fortes pour que la paix et la sécurité soient garanties, comme stipulé à l'article 51 de notre Constitution. J'aimerais aussi rappeler que nous célébrons le 49e anniversaire de la Journée internationale de la femme. 49e, c'est depuis 1977 que l'ONU a décidé d'instaurer cette journée après plusieurs luttes des femmes ouvrières en Occident et même partout en Afrique pour que nous puissions nous arrêter pour évaluer les avancées et planifier les perspectives d'autres luttes. Et pour ce qui concerne la RDC, nous devons analyser cela au niveau du pouvoir, des ressources et des opportunités. Est-ce que les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes en termes d'accès, par exemple, à l'emploi et principalement à la santé. Nous sommes dans une nation qui a connu beaucoup de crises et aujourd'hui, pour la seule province du Nord Kivu, nous avons 2,5 millions de déplacés internes avec plus de 51% de femmes. Et nous savons combien la femme, c'est elle la pivote de la survie dans les ménages. Et quand elle est dans une situation de déplacement, la précarité s'accentue davantage. Et même les ONG humanitaires enseignent que les femmes n'ont pas accès aux structures de santé, les femmes déplacées, et donc elles accouchent dans des conditions difficiles. Et quand on parle de l'accès aux soins maternels gratuits pour le capital, pour les femmes qui sont dans les milieux ruraux, cette disposition de la couverture des santé universelle n'est pas encore démise. Et donc cette journée, c'est l'occasion de rappeler aux autorités une nécessité d'allouer un budget conséquent pour tous les ministères, parce qu'il ne s'agit pas seulement du ministère du genre, parce que le genre est une thématique transversale. Dans tous les secteurs de la vie, il y a des mesures sexo-spécifiques qu'il faut à tout prix couvrir pour se rassurer que la moitié, plus de la moitié de la population congolaise se trouve dans des conditions optimales. Et donc, nous devons rappeler que la guerre ne se limite pas au combat, mais elle détruit les tissus sociaux, affaiblit les institutions et renforce les inégalités. Donc, quand on parle le 8 mars, c'est vraiment une journée bilan, une journée d'évaluation de la lutte et même des projections des projets, des programmes qu'il faut adopter, des levées de fonds pour des thématiques cruciales qui n'ont pas encore des ressources, parce qu'il y a encore beaucoup de thématiques qui ne sont pas encore couvertes pour ce qui concerne la RDC. On a parlé ici déjà de la justice, qui a besoin d'avoir des réformes structurelles au niveau de la justice, principalement en ce qui concerne la représentation de la justice dans tous les territoires, dans toutes les entités, et même nous avons 25% seulement des femmes dans les instances judiciaires avec 4% des femmes au poste décisionnel. Alors que la plupart des victimes et survivantes, ce sont des femmes. Et donc, pour se confier aux acteurs judiciaires, il faut d'abord trouver une personne en qui vous avez confiance pour vous ouvrir. Et donc, on n'a pas beaucoup de femmes. Alors qu'on a beaucoup de juristes et avocates femmes, mais quand il s'agit de nommer à des postes décisionnels, les femmes sont sous-représentées. Et c'est là, c'est répercuté.
Pourtant, il y a quand même des femmes qui sont dans les instances des prises de décision.
Mais le pourcentage est très faible. Le pourcentage est très faible parce que les nominations, et c'est là notre plaidoyer, parce que pour les postes électifs, pour les assemblées délibérantes, c'est les électeurs, c'est la communauté qui juge qui envoyer au niveau de Parlement. Mais pour les postes nominatifs, ce sont les décideurs seuls dans leur bureau qui peuvent décider d'appliquer la parité parce que c'est une disposition constitutionnelle contenue dans notre loi fondamentale à son article 14, avec même une loi adoptée en 2015. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2026. 10 ans, 11 ans plus tard, nous n'avons pas encore les mécanismes de mise en œuvre de suivi de mise en œuvre. Ça veut dire l'installation du Conseil national genre et parité ainsi que du comité interministériel. Nous pensons que, comme nous avons depuis le 1er avril 2024, la première femme, première ministre en RDC, son mandat devrait peut-être être marqué par la prise de ces décrets instaurant les mécanismes de suivi de la parité. Au niveau de l'état des lieux, nous avons seulement 13% des femmes à l'Assemblée nationale, 15% des femmes au Sénat, 30% des femmes au gouvernement national, 8% des femmes mandataires publics, 12% des femmes secrétaires générales, 10% des femmes dans les gouvernements provinciaux, une seule femme gouverneure sur les 26, ce qui est vraiment alarmant, et 10% des femmes dans les forces de sécurité, sans oublier que les femmes constituent 51% d'électeurs. Ça veut dire qu'elles sont une force de vote. Mais quand il s'agit de voter pour femmes, et les femmes et les hommes deviennent réticents à donner la confiance aux femmes alors qu'elles font partie de la communauté. La communauté devait être représentée par les deux personnes qui les constituent, hommes et femmes. Et donc il est temps que les hommes et les femmes fassent confiance aux compétences féminines pour avoir une société juste et égalitaire.
Maître David Demassandi Chabani, qui nous écrit depuis Chabunda au Sud Kivu, il dit « La violence faite en genre est l'œuvre des parfois de la volonté de la femme, même car les droits se revendiquent. La date du 8 mars est transformée par la femme en une occasion de s'habiller et nourrir, oubliant que toute l'année est pour la lutte. »
Effectivement, donc la date du 8 mars a vraiment une connotation festive hein, pour certains milieux, mais c'est une occasion aussi des ateliers de réflexion, de moments de réflexion. Donc ce n'est pas seulement le côté festif, parce qu'il y a 10 ans, on s'est limité seulement au pagne, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle appréhension que les ONG des femmes ont donnée à la journée du 8 mars. Ça veut dire à part la festivité, parce que quand on dit il y a des progrès, c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter pour se féliciter de ces progrès. Nous avons le code de la famille révisé depuis 2016, nous avons une loi sur la parité, nous avons très récemment l'ordonnance présidentielle qui réprime les coutumes rétrogrades. C'est quelque chose qu'il faut saluer et donc il faut célébrer. C'est peut-être c'est ces côtés-là que la communauté pense qu'on se limite par là, mais on présente encore d'autres défis du point de vue des santé, du point de vue des pesanteurs socioculturels qui continuent à plomber les efforts de femmes qui ne sont pas reconnues au niveau de la communauté. Et donc, pour les hommes par exemple, le 19 novembre, c'est la journée internationale de l'homme. Mais peu d'hommes ou peu d'acteurs clés de la communauté célèbrent cette journée. Alors que c'est l'occasion aussi de s'arrêter.
Parce qu'on estime que tous les jours, c'est des jours.
Non. Quand on dit une journée internationale, c'est-à-dire c'est une journée où on présente les statistiques mm-hmm. en disant est-ce qu'on a avancé mm-hmm. et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers une société égalitaire, une société où tout le monde se sent sécurisé. Parce que c'est ça, en fait, l'objectif. Mm-hmm. C'est sentir en sécurité.
Mais on ne les fait pas souvent. D'ailleurs, c'est une date que beaucoup d'hommes ne connaissent pas.
Mais c'est un appel, on lance un appel à tous les acteurs de la communauté, pas seulement les hommes, parce que Mme Faïda a précisé que pour la journée des femmes ou pour les questions qui touchent les femmes, il n'y a pas que les femmes qui sont impliquées, il y a beaucoup d'hommes qui sont engagés. Voilà. Et on salue le travail de ces hommes engagés qui soutiennent, qui poussent toutes ces femmes activistes, toutes ces femmes politiques, toutes ces femmes leaders, chefs d'entreprise. Elles ont peut-être des parents, des époux, des frères qui les mobilisent quand elles se sentent découragées, parce que rassurez-vous, la lutte demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et sans appui social, vous abandonnez. Et donc, si elles n'ont pas abandonné jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un soutien extraordinaire des hommes qu'on doit aussi saluer en cette journée.
Oui, mais il faut reconnaître, n'est-ce pas, que cette campagne relative à la masculinité positive commence à porter des fruits, hein, parce qu'il y a de plus en plus des hommes qui intériorisent la lutte de la femme et qui soutiennent, n'est-ce pas, la femme. Nous allons maintenant écouter les auditeurs qui sont en train d'intervenir dans cette émission. Madame Faïda Mwangilwa, vous allez réagir à la réflexion de Junior Bompongo qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Junior Bompongo depuis la ville province de Kinshasa. Dans notre pays, c'est de noter que la lutte pour les droits des femmes a enregistré des avancées juridiques importantes, notamment avec des lois contre les violences sexuelles et l'affirmation du principe de parité. Mais le véritable défi reste celui de l'application. Entre les textes et la réalité sociale, l'écart demeure est considérable, dans le sens qu'il existe à ce jour des discriminations persistantes sous pression ou répression politique et difficulté d'accès à la justice. Comme le rappelait d'ailleurs Kofi Annan, je cite, « Il n'existe pas d'outil plus efficace pour le développement que l'autonomisation des femmes. » C'est ainsi que la RDC doit donc passer des engagements aux actions concrètes. Car, pour reprendre les mots de Simone de Beauvoir qui disait, je cite, « Les droits des femmes ne sont jamais définitivement acquis. »
Madame Faïda Mwangilwa.
Effectivement, notre intervenant de tout à l'heure vient de relever quelques réalités. Il nous arrive d'être sur terrain, même ici à Kinshasa, parce que dans la ville de Kinshasa, il y a beaucoup de réalités. J'étais à Kinkimi Silver Brasserie Jean. Donc, vous êtes avec un petit noyau de femmes appelées à cet endroit, des femmes leaders de la base. Et vous voulez savoir s'il y a des violences domestiques dans ces milieux. Et les femmes vous disent, oh, maman, nous on pensait que vous nous amenez des projets de développement, hein, par exemple, et nous donnez des semences, vous nous parlez de, si un homme arrive à te battre, le mal seulement c'est de te blesser. Mais si c'est vraiment des gifles ou quoi, bon, on arrange à la maison. Que d'envenimer la situation, aller à la justice. Et tout le monde a rigolé. Donc, ce sont des femmes elles-mêmes qui s'expriment. Ce qui veut dire qu'il y a du travail à faire dans la réalité. Nous pouvons prendre les lois, mais lorsqu'au niveau communautaire, ces lois ne sont pas même vulgarisées. L'une des intervenantes, Madame Animoz, il avait dit, les gens ne connaissent pas comment les choses évoluent. Alors, on préfère même voir une femme mourir dans son couple pour lui qu'elle a supporté. Donc, on vous dit non, le problème des couples n'amène pas à l'extérieur. Oui, nous encourageons que les couples restent pour l'intérêt des enfants, mais restent en se respectant les uns les autres. Donc, une autre réalité, c'est par rapport à l'autonomisation de la femme. Quand je parle de l'autonomisation, cela veut dire que la femme est à mesure de contribuer même au coût de ménage. Mais ce n'est pas seulement resté depuis le matin, tu attends tout de l'homme. Là aussi, on pousse les hommes vers une situation de révolte. Vous êtes là, vous avez votre épouse le matin, il n'y a pas de sel, à midi, il n'y a pas d'huile, après-midi, alors que ensuite, là, il voit que d'autres femmes le font. Mais ton épouse ne veut pas le faire, il dit que moi, je me suis mariée avec toi, toi, tu dois travailler et moi, je dois rester là-bas. Ça, c'est quelle mentalité? C'est pas une... Même pour les hommes qui ont des moyens et qui refusent que leurs épouses puissent travailler. Mais non, laisser l'autre s'épanouir et là, ça peut aider la communauté à se reconstruire. Donc, nous avons pas mal de défis. Nous devons aller dans la transformation au niveau culturel. Nous avons des valeurs positives, mais nous reconnaissons que nous avons aussi des valeurs culturelles négatives que nous devons changer pour transformer notre communauté. Et là, ça demande l'effort, les efforts collectifs, comme je l'ai dit à l'introduction. Merci beaucoup. Lorsque les hommes... Mais je reviens sur la question des femmes, monsieur Guy. En tout cas, nos auditeurs et auditrices doivent comprendre que les femmes, on les confectionne à l'occasion du 8 mars pour des signes distinctifs. Dans quelle famille, même lorsqu'on célèbre l'anniversaire, nous trouvons des gens qui sont en uniforme. Ça, c'est la culture. C'est plus facile de lire « Respecter les droits de la femme en lingala, en langue nationale » ou parce que les gens, c'est pas tout le monde qui parle français, mais ça passe. Même avant les années, vers les années 2003, à ce moment-là, j'étais au gouvernement. Il y avait toujours des conférences, mais les gens vous disent que les femmes attendent seulement porter les peines. Vous, dans vos mariages, lorsqu'on organise des cérémonies de mariage civiles, coutumiers, les gens sont en uniforme. Mais c'est Guy, ça s'appelle une façon de banaliser la lutte. Quand les gens reviennent et signent l'habillement. Parce qu'à un moment aussi, lorsqu'on parle de viol, d'autres disent non, parce que les filles sont mal habillées. Mais non, les hommes aussi sont mal habillés. De quoi? Sont mal habillés, c'est promener des garçons. On les voit se promener en laissant dehors les sous-vêtements. Et c'est pour autant qu'on les viole. Donc moi, je crois que dans ces questions, on doit y aller en analysant objectivement et comprendre l'essentiel. Les femmes, c'est juste comme des signes distinctifs où on met des messages et ça permet effectivement de véhiculer ces messages.
Allô, maman Faïda? Voilà, apparemment, un problème de connexion. Voilà, madame Annie Modi, vous allez aussi réagir à la réflexion de notre auditeur qui appelle toujours depuis la ville de Kinshasa. Il s'appelle Jackson Kisangani.
Bonsoir la radio de la paix, je suis Jackson Kisangani, je vous appelle depuis la ville province de Kinshasa. Les violences basées sur le genre, l'exclusion économique et les discriminations continuent d'effréner l'émancipation des femmes. Dans l'est du pays, les conflits armés aggravent encore la situation, exposant les femmes et les filles à l'insécurité et à l'impunité. Le défi aujourd'hui n'est plus seulement d'adopter des lois, mais de les appliquer réellement. Tant que l'impunité persistera, les droits des femmes resteront théoriques. La RDC doit passer des promesses à l'action, car l'égalité ne se célèbre pas seulement lors de la Journée internationale des droits des femmes. Elle se construit chaque jour. La question demeure donc, quand est-ce que le droit proclamé pour les femmes deviendra-t-il enfin une réalité vécue au quotidien?
Madame Animaudi.
Merci, Monsieur Jackson. À votre question, je vais directement répondre par lorsque l'impunité n'aura plus sa place dans notre nation. Parce que c'est la justice.
Et lorsque les mentalités auront évolué, n'est-ce pas?
Les mentalités ne s'évoluent pas librement. Vous savez, même des pays aujourd'hui où les femmes, les hommes ont très peur de lever la voix, je ne parle même pas de la main, c'est parce qu'ils savent ce qui va suivre. L'être humain ne change pas, le changement fait peur à tout le monde. Et ce qui force ces changements, c'est entre autres, et surtout d'ailleurs, la justice. Même lorsqu'on doit éduquer, même pour ceux qui sont chrétiens ou quelle que soit la croyance, vous allez voir que lorsqu'on parle du salut, juste à côté, on parle des sanctions. Pourquoi on parle de paradis et de l'enfer? C'est justement pour conditionner le mental des gens. Pour moi, l'impunité, c'est un sérieux problème et l'ignorance. Parce que quelqu'un a dit, les femmes elles-mêmes aussi, je pense qu'il y a eu un commentaire de Ouvira ou quelque chose, où on met la responsabilité sur la victime. Mais comment est-ce qu'une personne va se réveiller le matin et dire, aujourd'hui j'ai envie d'être violentée? Ça n'existe pas du tout. C'est l'ignorance de ces droits qui font en sorte qu'il y ait cette tolérance-là des comportements qui sont inacceptables. Et aussi, autre chose, c'est lorsqu'il y aura plus d'hommes comme vous, M. Guy, M. Jackson et autres, qui se sont mobilisés en marge de la célébration du mois de la journée de droit de la femme, pour réfléchir avec nous, pour dresser les bilans. Parce que le problème des violences basées sur le genre, c'est un problème de la société. Ce n'est pas un problème que de femmes, parce que depuis qu'on parle ici, on oublie que dans ce système patriarcal, même les hommes, vous êtes des victimes. C'est tout simplement que la violence que subit la femme est sur son intégrité physique. Et ça, c'est très perceptible. Et aussi que ceux qui décident, ceux qui ont le contrôle des ressources, sont des hommes. Ça met les femmes dans une condition de dépendance. Par contre, si vous observez aujourd'hui, nous, Chantal Faïda et moi, pouvons toucher de l'argent au même niveau ou même plus que nos époux. Mais est-ce que si on reste dans le rôle traditionnel où c'est l'homme qui doit payer toutes les factures, pensez-vous que psychologiquement, économiquement, avec les taux de chômage, les hommes vont tenir les coups comme ils tenaient dans son temps? Non, pas du tout. Donc, le problème des inégalités sociales que nous décrions aujourd'hui, c'est vrai, il y a plus de femmes victimes que les hommes aujourd'hui. Mais si les hommes pensent que c'est un problème des femmes, on va juste renverser la tendance. Demain, il y aura plus des hommes victimes, comme c'est déjà le cas dans certaines nations aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous voulons, nous. Ce que nous voulons ici, c'est avoir une communauté où l'accès, Chantal Faïda l'a souligné, aux opportunités soit égal, où la jouissance des droits soit égale, où les respects, surtout les respects de droits des uns et des autres, soient des mises, où l'impunité n'a pas sa place, où l'ignorance n'a pas sa place, l'exclusion n'a pas sa place, et même tout ce que nous disons ici, pour nos sœurs qui vivent dans les territoires qui sont affectés par les conflits armés, les zones occupées par les rebelles aujourd'hui, pour elles, nous allons dire quoi? C'est encore la paix, parce qu'il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'ordre de l'État qui soit rétabli pour qu'enfin on puisse même parler de la justice pour elles. Parce qu'elles sont dans un environnement où il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police. Et qu'est-ce qu'on peut dire de mes sœurs, mes filles, mes tantes et mes mamans aujourd'hui? Je suis parfaitement d'accord avec M. Jackson Kisangani. L'exclusion, l'impunité, la pauvreté, tout ça, c'est ensemble les hommes et les femmes, mais surtout avec les autorités conscients de l'apport de la moitié de la population dans le développement de la nation que nous allons arriver à avoir une RDC paisible, une RDC où il fait beau vivre, qu'on soit femme ou homme.
Merci Madame Chantal Faïda Moulenga-Biuma. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu-Sud-Kivu, c'est Patrice Mouderwa.
Patrice Mouderwa, Koulimushi depuis Bukavu-Sud-Kivu. les postes qu'occupent les femmes au sein des institutions de la République ne devraient pas signifier qu'il y a une avancée dans la promotion des droits des femmes. Non seulement ces postes ne sont pas arrachés dans la légalité, mais aussi ceux à qui on donne ces postes ne promouvent pas les droits des autres femmes coincées au fin fond du pays ou ne plaident pas pour leur autonomisation. L'autonomisation des femmes et filles, ce n'est pas quand la femme et fille de Kinshasa se porte bien, mais c'est plutôt lorsque la femme et fille du territoire du Djougou, par exemple, les Minembwe et j'en passe, recouvrent la liberté, la paix et la sécurité.
Madame Chantal Faïda Moulenga Bimoa.
Merci beaucoup pour la réflexion. Je pense qu'il a touché le fond de notre lutte, c'est d'avoir une représentativité significative des femmes dans les instances de prise des décisions pour atteindre un pourcentage critique. Parce que quand on a fait le bilan, on est à moins de 30%. C'est dit qu'on n'a pas encore atteint un pourcentage critique pour côté l'apport de femmes. Donc, on a un nombre marginal et c'est difficile de dire que ce sont les voix des femmes qui sont là-bas au Parlement. Et donc, quand on aura plus de 30% de femmes au Parlement, à ce moment, on pourra juger l'apport de la femme dans la politique. Et c'est pour ça que les ONG féminines et d'autres acteurs clés sont en train de plaider pour la réforme de la loi électorale pour que nous puissions rejeter les listes qui ne sont pas paritaires. D'abord, on parle au niveau des listes. Et si jamais on n'atteint pas toujours la parité, qu'on puisse adopter, et notre pays l'a ratifié, la CDF, à son article 4, recommande aux États d'adopter le système de quotas temporaires, qui est une mesure de discrimination positive que nous pourrons lever quand les mentalités pourront évoluer. Et donc ça va permettre d'atteindre ces pourcentages critiques de représentativité des femmes. Et il faudrait savoir que ce n'est pas seulement une question africaine ou congolaise, cette sous-représentativité des femmes dans l'espace public. Nous avons seulement 25% de femmes au Parlement dans le monde entier, selon l'Union interparlementaire. Et seulement 10% des femmes chefs d'État et 10% des femmes chefs de gouvernement. Donc c'est une question qui touche l'humanité, cette problématique des considérations de droits des femmes. Et donc ce n'est pas seulement en Afrique, mais c'est partout dans le monde. C'est ainsi qu'on a des instruments juridiques au niveau national, international et même au niveau régional qui encouragent les États d'adopter des mécanismes qui vont au-delà des traditions, parce qu'on dit toujours que la loi est au-dessus des coutumes. S'il y a encore une coutume qui retarde la voix de la femme, cette femme doit savoir qu'il y a l'article 11, 12 de la Constitution qui lui donne tous les droits. Même l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme lui reconnaît déjà ces droits-là d'être une personne humaine avec une obligation de contribuer pour l'avancement de sa communauté. Et donc, il y a encore des femmes qui pensent que les développements de la nation, de l'humanité, dépendent des hommes et donc elles doivent attendre pour seulement donner des conseils. Ils ne savent pas que c'est une obligation. Quand on est citoyen, on a des droits et des obligations. Et donc, il ne faudrait pas seulement attendre des jours de droits, mais il y a aussi des obligations pour lesquelles il faut s'acquitter. C'est ainsi que je recommande à la communauté, et on dit toujours qu'on a trois foyers d'éducation pour changer les mentalités. Nous avons la maison, l'école, l'église ou la communauté. Et donc, si chaque ménage, si chaque école et chaque endroit où on enseigne les valeurs de respect et de la dignité humaine, on essaie d'intégrer aussi la considération de la personne humaine qui est la femme, en tout cas, nous aurons une société prospère parce que personne n'est choisi de naître femme ou homme. C'est à la naissance qu'on se rend compte qu'on est femme ou homme. Et donc, on ne devrait pas juger en disant que tu es femme, tu n'as pas droit de penser que tu peux étudier une filière technique, par exemple, parce que nous avons encore beaucoup de ménages qui limitent les vocations des filles en disant tu ne vas pas faire un pilotage, tu ne vas pas faire les filières scientifiques, c'est trop complexe, tu es une fille. Et même dans les jeux, on dit tu ne peux pas monter sur l'arbre, tu es une fille. Alors que peut-être c'est une athlète en devenir. Si on la laisse monter cet arbre-là, demain, on aura une championne nationale, internationale. Et donc, du point de vue de droit, il faudrait que la communauté, et même les filles, les femmes, les ménages, de manière générale, comprennent que tous, nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes opportunités, et donc, nous devons les saisir, nous devons connaître nos droits. Hein. Il faudrait que les femmes vraiment prennent conscience qu'il y a des efforts à faire pour s'instruire. Et là, la communauté juge doublement le travail de la femme plutôt que de l'homme.
Et même en gouvernement, vous verrez qu'il y a certains hommes qui n'ont pas des résultats probants, mais qui ne sont pas jugés. Mais quand c'est la femme, une seule erreur, elle est jugée doublement. Et donc, il faudrait être à la hauteur et essayer un peu de changer de mentalité pour ne pas trop juger les femmes.
Merci. Merci. Nous tendons vers la fin de l'émission. Madame Faïda Mwangiloa, je rappelle que vous êtes ministre honoraire du genre, vous êtes membre de la société civile et puis experte en genre. Et qu'est-ce qui doit être encore fait en termes des politiques nationales pour promouvoir effectivement les droits des femmes dans ces pays, la RDC? Ça sera votre conclusion.
Merci beaucoup, M. Guy. Ce qu'il faut faire à mon niveau, parce que l'éducation, c'est quelque chose de formidable. Il faut voir comment développer des politiques sectorielles genre. Par exemple, au niveau de l'éducation nationale. À un moment, on parlait, on a même travaillé sur cette stratégie genre au niveau du secteur de l'éducation. Il faut y mettre les moyens. Même chose pour la stratégie genre dans des domaines comme l'agriculture, comme l'enseignement supérieur universitaire, comme les finances. Donc, dans tous les secteurs de la vie nationale, développer une politique sectorielle genre. Ça va aider l'ensemble des institutions à s'intéresser à ces questions. C'est ici l'occasion de remercier d'ailleurs les écoles secondaires qui organisent des matinées scientifiques sur les questions des droits des femmes et où vous pouvez des jeunes filles de 17 ans, de 15 ans, parler de leurs droits. Moi, quand j'ai tous ces éléments-là, je me dis, mon Dieu, merci beaucoup, franchement, d'ici 5 ans, nous sommes sûrs que les filles vont continuer à se battre aux côtés de leurs collègues garçons pour que les droits des femmes demeurent une réalité dans notre pays.
Merci, Madame Annie Maudit. Vous allez aussi conclure. Hein. Vous êtes activiste des droits des femmes. Vous prenez, n'est-ce pas, la lutte contre l'impunité. Mais en plus de cela, qu'est-ce que vous demanderez encore au gouvernement pour que les droits des femmes soient effectivement vécus dans ces pays?
Ce que je demanderais au gouvernement, au-delà de l'impunité, c'est vraiment de réinstaurer l'autorité publique dans les communautés, aussi bien dans les grandes villes que dans les entités décentralisées, c'est important.
Restaurer l'autorité de l'État.
Restaurer l'autorité de l'État, c'est important. Mais deuxièmement aussi, c'est que l'État puisse faire en sorte qu'il y ait de ressources pour les organisations de la société civile. Même dans des pays développés, aujourd'hui, ils ont quand même un budget qui émane du budget de l'État, qui appuie les actions sociales des volontaires, parce que les fonctionnaires publics ne peuvent pas tout faire. Et surtout, les travaux communautaires que nous faisons, c'est sur la base du bénévolat. Alors que ici en RDC, il y a beaucoup de tâches régaliennes que les organisations de la société civile, notamment féminines, exécutent sans budget et très dépendant des donations d'autres nations. Ça, c'est quelque chose que je vais vraiment insister. La justice, la réinstauration de l'autorité de l'État, les financements des actions communautaires par l'État congolais aussi.
Merci, Madame Chantal Faïda Mwangiloa. Dis-moi, c'est quoi votre mot de la fin?
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. Chantal Faïda Mulenga Biuma. Et donc, j'aimerais vraiment recommander...
Chantal Faïda Mulenga Biuma, voilà.
Oui. J'aimerais recommander cette allocation budgétaire significative au secteur de la santé et de l'éducation pour que nous ayons des centres intégrer des services multisectoriels dans tous les hôpitaux de référence. Parce que ces centres permettent une prise en charge holistique, médicale, juridique, psychologique et même la réinsertion socio-économique des survivantes de violences basées sur le genre. Il y a aussi la sensibilisation de la communauté sur le rôle de la femme et de l'homme dans la communauté. Et dans les ménages, sensibiliser les parents sur la répartition équitable des tâches domestiques pour permettre aux filles déjà d'avoir les temps pour se consacrer à la recherche et à la culture générale. Parce que demain, pour être une personne utile à sa communauté, il faut avoir une plus-value, une valeur ajoutée qu'on apporte et on tire ça des livres et même l'accès à l'information comme écouter les informations sur la radio. Et aussi, raccourcir, parce qu'une femme a dit qu'il faut 130 ans pour atteindre une société égalitaire. Mais si nous mettons en place tout ce que nous avons recommandé ici, peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, on aura une RDC où l'homme et la femme jouissent de ses droits de manière équitable.
Merci, merci à vous tous, nos mamans qui merci. Avez accepté, n'est-ce pas, de participer à cette émission avec vos interventions pertinentes. Merci, félicitations à vous, mamans. Merci aussi à tous ceux qui ont, tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission, mais aussi à Benjamin Moudoumbi et David qui ont réalisé cette émission. Sylvain Bauger était à la technique et Alain Goyi a assuré le live de cette émission à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite du programme sur Radio Capi.